pendant la semaine de la Lune Rouge, le loup-garou peut transmettre sa malédiction d'une simple morsure.
Durant une pleine lune ordinaire, vous pouvez mourir d'une morsure. Mais quand la lune est bien rouge, c'est votre âme tout entière qui est en danger.
Jusqu'au déclin de la lune rouge, dans 3 jours, vous ne serez plus en sécurité.
Nous sommes en sécurité. J'ai tué le loup dans sa tanière.
Ah oui, ça rigole pas comme début d'émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. Parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement, en tout cas nous essayons. Oui, on parle de loup parce que ce sera le deuxième thème en fait de cette émission. Je vous emmènerai dans les Hautes-Alpes à la rencontre de Jean-Michel Bertrand, l'homme qui murmurait à l'oreille des loups, qui est un cinéaste assez formidable. À la technique, il y a aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne et Hélène Langlois, assistés de Caroline Debresse et Hélène Biziot, qui réalisent l'émission. Alors, émission qui était envoyée depuis la Guadeloupe la semaine dernière, grâce aux fables du Terra Festival. Je salue nos amis guadeloupéens parce qu'il doit être 8h06 là-bas, avec la terrible température de 26 degrés comme celle de l'eau. Et là vous rentrez, ben en fait c'est la Toussaint au 1er mai. Donc en avril ne te découvre pas d'un fil, mais en mai enfile 3 pulls pour que le printemps te fiche la paix. Bon, allez, avec l'ami Albert Houck, on va vous parler de gros sous. Oh, pas si vous voulez, de frais de taxi parisien. Non, là, ça, c'est trop facile. Et le sujet a été formidablement traité par l'excellent Frédéric Fromet sur France Inter. Non, on va plutôt s'attarder sur une étude publiée par l'OMS. Étude qui nous apprend que la pollution de l'air en Europe coûte la bagatelle de à peu près de 1600 milliards de dollars chaque année, soit la modique somme de 1255 milliards d'euros. Et bah oui, ça, c'est l'avantage de l'euro par rapport au dollar, même si c'est la parité quand même, elle est pas loin. C'est que les dépenses nous paraissent tout de suite moins exorbitantes. Alors rassurons-nous, quelle que soit la devise, la somme équivaut toujours à pratiquement 10% du montant du PIB de l'ensemble de l'Union européenne. De là à parler de PIB de pollution, bah il n'y a qu'un pas et hop, on le franchit. Car c'est comme dans le cochon, tout est bon dans le PIB, les accidents, les blessés, le mal-être, tout, du moment que ça monte. Voilà en tout cas chiffré le coût économique annuel de quelques 600 000 décès prématurés et autres maladies provoquées par la pollution de l'air pour la région européenne. Alors précisons que le tracé de cette région Europe de l'OMS dépasse les limites officielles de l'Union, hein, c'est un peu comme les particules fines, ça ignore les frontières. Et la directrice régionale de cette OMS pour l'Europe le dit sans embâge, il est rentable d'atténuer les effets de la pollution de l'air sur la santé. Les données dont nous disposons fournissent aux décideurs une raison impérieuse d'agir. Alors en d'autres termes, si on ne lutte pas contre la pollution pour préserver la santé des Européens, qu'au moins on le fasse pour ne pas vider les tirelires de Bruxelles, de Madrid, de Saint-Pétersbourg. Qu'importe en effet que plus d'un Européen sur 10 soit exposé à des niveaux de particules fines supérieurs aux recommandations sur la qualité de l'air, si l'impact sur les finances des États reste modéré. En revanche, dès lors que des sommes hallucinantes se trouvent englouties dans la foulée des émissions de soufre, d'oxyde d'azote et autres parfums urbains, là, on regarde subitement la problématique de la pollution de l'air autrement. Et puis, si on meurt pas de ça, de toute façon, avec la vision court-termiste que l'on a, on mourra toujours d'autre chose. Alors, toujours à la pointe du combat écologique, eh bien, la France a choisi de montrer l'exemple en matière de gestion de la pollution de l'air. Le ministère de l'écologie vient en effet de lancer un appel d'offres pour le démontage des portiques de feu, l'écotaxe. Alors que le dispositif de l'écotaxe, on s'en souvient, c'était la vitrine du principe pollueur-payeur qui était censé générer plus de 600 millions de recettes par an. Le démantèlement des 176 portiques encore debout, lui, ne devrait pas dépasser 2 millions. Donc c'est une somme ridicule si on la compare aux 803 autres millions que l'État a déjà déboursés au profit d'Ecomove, la société qui devait collecter la taxe. Au titre des indemnités, donc prévues par le protocole, d'accord, eh bien oui, qui entérinait l'enterrement, ou plutôt devrais-je dire la crémation de l'écotaxe. Alors, l'appel d'offres étant lancé, on espère de tout cœur que la joyeuse confrérie des bonnets rouges y répondra. Mais oui, il est sûr que le démantèlement des portiques, ça les connaît. Pour un prix défiant toute concurrence, nos as du civisme et de l'intérêt général seront vraisemblablement en mesure de vous nettoyer n'importe quelle installation payée avec les deniers du contribuable. Il suffira juste de quelques vieux pneus arrosés d'essence et rassemblés à la base du portique et hop, pour que ça s'envole en fumée. c'est merveilleux, jusqu'au souvenir de toute notion d'écologie punitive. Donc nul besoin de faire appel à une société spécialisée basée à Taïwan. Le low cost à la française, eh bien oui, c'est possible. Quand on vous dit que l'écologie, même si ça commence à bien faire, ça peut être bon pour le PIB. Dans cette émission, je vous l'ai dit en seconde partie, donc nous allons non pas danser, mais on va aller dans une quête à la fois un peu philosophique, un peu jolie, un peu spirituelle avec Jean-Michel Bertrand. Ça sera la page nature. Auparavant, ce sera Naomi Klein, la journaliste canadienne, avec un nouvel ouvrage. Donc on en parlera aussi grâce à Anne-Cécile Bras. Et puis une petite actualité avec Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis, bravo pour les bonnets rouges. Je n'y avais pas pensé, c'est parfait.
Bon, eh ben écoutez, c'est déjà ça. Cher Frédéric, puisqu'on est à fâcher les gens, de toute façon, on le sait. Alors, la semaine dernière, c'est vrai que l'actualité était tombée, moi j'étais au milieu de la Guadeloupe, sur les OGM, la Commission européenne. Alors ça, on y reviendra tranquillement avec vous la semaine prochaine avec un autre décryptage.
D'accord.
Dans l'actualité, il y a cette autoroute ferroviaire Nord-Sud qui sent là aussi franchement le sapin. Donc, on partait du Pas-de-Calais pour arriver un petit peu plus dans les Landes, donc autoroute ferroviaire, on n'en veut pas, quoi. Ça va pas.
Alors, ça sent pas le Michel Sapin, hein.
Non,
Michel
pas
Sapin
du tout.
N'y est pour rien. Non. Alors, cette autoroute ferroviaire, c'est la vraie fausse bonne idée. C'est en France le fret ferroviaire, c'est-à-dire les marchandises transportées non pas par camion, mais par train dans un état consternant. Année après année, ça va de mal en pis parce que, en gros, pour faire très très court, la SNCF ne veut pas entendre parler de fret et ne fait rien pour permettre à ce que le fret puisse être transporté sur les voies de chemin de fer.
C'est-à-dire qu'on a refusé quand même pas mal de concurrence sur ce domaine. Voilà.
Pas de concurrence, l'imposition de wagons complets, de trains complets. S'il manque un wagon, etc., les trains partent pas. Enfin, c'est très compliqué. Puis il y a surtout le fait que les SNCF imposent que les trains de passagers soient prioritaires sur les trains de fret, quelles que soient les tranches horaires. Enfin, c'est très technique, mais de fait, en France, le fret ferroviaire est quasiment mort. Bon, alors pour faire semblant de faire quelque chose, on a décidé de faire un outil d'ingénieur, un projet d'ingénieur, un fantasme d'ingénieur, l'autoroute ferroviaire. Sauf que j'ai lu le rapport, je l'ai relu ce matin, c'était consternant. Enfin, c'était ni fait ni à faire. Il y avait trop de travaux qui ont déjà été engagés, des travaux dont les conséquences environnementales n'étaient pas connues, des travaux dont, enfin, in fine, là, il n'y avait pas de rentabilité économique. Voilà, donc c'est un vrai faux projet derrière lequel, finalement, alors on dénonce le fait que l'abandon de ce projet va remettre de fait 85 000 camions sur la route. Le problème, il n'est pas là, c'est que c'est juste révélateur d'une politique française qui, depuis les années 50, n'a fait que privilégier le transport routier, lequel, de fait, par les concours publics, est beaucoup moins cher que le fret ferré, ou pire, que le fret fluvial. Alors, le fret fluvial commence à s'en sortir, le fret ferré est dans un état déplorable. Voilà, c'est juste le révélateur d'une réalité du terrain qui va à l'encontre, par exemple, la loi de transition énergétique, qui, je le rappelle, ne fait jamais mention du transport. Alors même que les acteurs du transport, les distributeurs, les chargeurs, les transporteurs, y compris les transporteurs routiers, agissent de mieux en mieux et de plus en plus pour, par exemple, mutualiser des stocks, mutualiser des livraisons, mutualiser des camions, font en sorte que les émissions de CO2 soient les plus faibles parce qu'ils se sont rendus compte que quand on émettait moins de CO2, in fine, ça voulait dire que les chaînes de transport avaient été optimisées, qu'in fine, ça coûtait moins à tous les acteurs.
C'est bien pour ça qu'ils étaient prêts à payer l'écotaxe, en tout cas en ce qui concerne les gros, enfin les gros donneurs d'ordre.
Exactement, c'est ça qui est fascinant. Ouais. J'ai bien suivi l'écotaxe depuis sa jeunesse. Je n'ai rencontré personne, et même pas un transporteur routier qui était contre.
En Bretagne, mais ça c'était pour les distances courtes.
Courtes, et puis ils ont été un peu manipulés, on dira pas par qui, mais
pour les grandes surfaces.
Voilà. Non, mais le fret ferré, par exemple, il aurait pu retrouver un tantinet de rentabilité économique si, grâce à l'écotaxe, le prix du transport routier avait été réajusté à son juste niveau, bien supérieur à son niveau actuel. Il y a une distorsion de concurrence de fait du transport routier. L'écotaxe aurait permis de la corriger. On l'a abandonné. Et en plus, là, vous l'avez dit, on va foutre en l'air les portiques qui aurait pu servir, par exemple, pour les communes, pour les communautés de communes, à mesurer dans le cadre de leur bilan carbone ce qui rentre et ce qui sort. Et maintenant, on va les démonter. Enfin, on marche sur la tête.
Bon, c'est formidable. Pour les autoroutes de la mer, je vous avais juste 30 secondes. Autoroutes de la mer, donc ça, on a vu ça aussi, qui n'était pas une mauvaise idée.
Ben, c'était pas une mauvaise idée. Les autoroutes de la mer ont une vraie... Alors, c'est la même chose, mais sur la mer, par exemple, entre Nantes et Riron en Espagne, ça a une vraie rentabilité économique. Sauf que le fait que des concours publics, des subventions massives ont été injectées, ont créé ce qu'on appelle un effet d'aubaine, de la même façon que les crédits d'impôt ont fait que les chaudières à condensation ont augmenté de 40%, ça a créé un effet d'aubaine qui ont été avalés par les armateurs, et in fine, aujourd'hui, il y a une de ces autoroutes de la mer, à cause de cela, qui a perdu sa rentabilité économique. C'est l'effet paradoxal des subventions, alors même que là, pour le coup, c'est un moyen massifié qui fonctionne et pour lequel il y a une vraie pertinence économique. Donc voilà, pour finir, cette autoroute ferroviaire... Qu'elle existe ou pas, finalement, ça ne changera pas grand-chose parce que l'état du fret ferroviaire en France est consternant et cet état serait meilleur si on avait une vraie politique de transport et de logistique en France, et on n'en a toujours pas une.
Merci beaucoup, Frédéric. Non, et donc vous réagissez, n'hésitez pas. Hein, donc sur le site France Inter. Non, mais nos amis qui nous écoutent, hein, sur le site franceinter.fr, histoire de vous engueuler, tout ce que vous voulez. Enfin, tout est possible, il n'y a pas de problème. Naomi Claire, dans quelques instants, un peu de douceur avec Gilberto Gil. Ouais.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum.
Toujours un régal, ça. Joao Gilberto sur France Inter, CO de mon amour, Desafinado. Maintenant, c'est Naomi Klein. Naomi Klein avec un nouvel ouvrage, donc c'est une femme qui est journaliste canadienne et qui vient de sortir « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » aux éditions Actes Sud. Alors ça ne vous a pas échappé, 4 semaines de grève, je devais en fait interviewer cette femme. Et heureusement que nous avons effectivement de l'aide avec Anne-Cécile Bras qui fait une excellente émission sur RFI qui s'appelle « C'est pas du vent », c'est le samedi dimanche à 11h10, « C'est pas du vent ». Merci Anne-Cécile Bras parce que elle nous a un petit peu aidé quand même effectivement pour avoir donc cette interview. En fait, on est merveilleusement occupé. Et donc quand on regarde ce livre, eh ben, c'est vrai que ça commence. Il y a des éléments très forts. Elle dit que ExxonMobil, BP, Shell et les autres géants des énergies fossiles ont déjà déclaré la guerre à la planète et à l'humanité. Donc si on les autorise à exploiter les réserves de combustibles fossiles qui restent, eh ben, la température augmentera de 4 à 6 degrés. Et donc on ne leur a pas vraiment répondu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu des ONG environnementales, pas toutes, hein, loin de là, mais qui signent des partenariats avec des pollueurs, comme le WWF, avec Shell, etc., etc. Donc, elle ne ménage absolument personne. Et donc, c'est intéressant de la rencontrer avec donc Anne-Cécile Bras et une traduction de Eve Dare.
Je tâche de démontrer qu'il y a ce choc entre un système économique qui requiert une croissance illimitée, infinie, et l'idéologie du capitalisme déréglementé qui veut que les gouvernements ne se mêlent plus de la vie des grandes entreprises. Et c'est cela qui a fait qu'il a été très difficile d'arriver avec des actions collectives qui soient à la hauteur, car il faut des interventions brutales sur le marché, une réglementation. Mais le message de mon livre, c'est que ce système économique a échoué sur beaucoup d'autres plans aussi. Et pour ce qui est de la crise du climat, eh bien, je crois qu'on peut bâtir une économie plus juste, qui soit plus égalitaire pour un plus grand nombre de gens. C'est un faux dilemme qu'il faille choisir entre des emplois et la protection de l'environnement. En fait, je suis persuadée qu'on peut avoir une économie prospère avec des emplois décents sans pour autant mener la guerre contre la nature et la terre. Donc, ce que je tâche d'expliquer, c'est qu'il n'est pas trop tard pour éviter ce dénouement absolument catastrophique. On a encore le temps. Par contre, on a attendu tellement longtemps que les choses ont empiré. Et maintenant, ce ne sont que des changements drastiques, radicaux, apportés à notre système économique qui nous permettront de réduire à temps les émissions. Et ça, nos élites dirigeantes le comprennent mal, ou du moins, elles n'aiment pas entendre ce type de message, car elles appréhendent ce type de changement. Mais pour les mouvements sociaux qui se battent déjà contre la logique de l'austérité, qui se battent pour davantage d'emplois et pour plus de démocratie, moins de corruption, eh bien je crois que là, ça peut agir comme un catalyseur.
Alors en fait, ce capitalisme nous aveugle, faut le dire. Donc aussi Hervé Kempf l'a aussi théorisé donc dans un certain nombre de livres. C'est une espèce de parapluie qui nous empêche quand même de voir une certaine réalité. Et on est un peu, c'est vrai, comme le joueur de flûte de Hamelin, donc qui est en train de jouer de sa flûte et qui emmène donc les rats tranquillement, ou bien les enfants vers quoi ? On ne sait pas.
Je crois que c'est exactement ça dont il s'agit. Et puis l'industrie pétrolière est la plus rentable au monde. Parfois les banques arrivent à avoir un niveau de rentabilité presque équivalent, mais aucune entreprise n'a fait plus d'argent qu'ExxonMobil, à savoir 46 milliards de dollars de bénéfices une seule année. Et ils ont répété cela deux fois. Donc, un tel niveau de profitabilité, eh bien, évidemment, cela permet beaucoup de corruption, tout cet argent. Et ces entreprises ont un pouvoir politique incroyable. Et beaucoup d'actes de corruption sont en fait légaux, en un sens. On le voit clairement aux États-Unis, les frères Koch, tristement célèbres, qui ont créé le Tea Party, très conservateur, les frères Koch, donc, nagent dans l'argent qui vient des combustibles fossiles. Voilà pourquoi ils ont accumulé cette richesse. Ils ont beaucoup investi dans les sables bitumineux, encore une fois l'énergie la plus sale, hormis le lignite. Et les frères Koch viennent d'annoncer qu'ils vont dépenser $1 million pour dans les élections américaines.
Which is equivalent to what both political parties are spending.
Et c'est l'équivalent de ce que pense chacun des deux grands partis politiques. Donc c'est comme si, en fait, le pouvoir pétrolier avait le même pouvoir que les démocrates ou les républicains aux États-Unis. Donc c'est le problème de la corruption et de tout ce système qui permet la corruption.
So very concretely, an example. The European-US free trade deal is modeled on NAFTA.
Ce traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique a pris pour notre modèle l'ALENA, qu'on appelle NAFTA en anglais.
And that trade deal has been used against very good climate policies. For
instance, ce traité est allé à l'encontre d'excellentes politiques en faveur du climat.
Has passed a moratorium on fracking.
La province du Québec a voté un moratoire sur la fracturation hydraulique et cette décision est remise en question par une entreprise américaine gazière qui déclare que ce moratoire contrevient à ses droits d'effectuer des forages. La province de l'Ontario, elle, également a voté une loi verte sur l'énergie qui non seulement préconise un retrait total du charbon, mais exige également que les technologies pour favoriser cette transition vers les énergies renouvelables doivent être produites dans la province de l'Ontario. 60% en fait des renouvelables, le solaire, l'éolien. Et cela a permis de créer 30 000 emplois. C'est un bon exemple du genre de politique qui illustre le fait qu'on n'a pas à choisir entre l'emploi et l'environnement. On peut arriver à concevoir des bonnes politiques justes qui arrivent à créer des emplois de qualité et en même temps lutte contre le réchauffement climatique. Mais l'Union européenne et le Japon se sont heurtés au Canada dans le cadre de l'OMC. Et se sont opposés au Canada en décrétant que cette loi violait tous les traités qui empêchent le protectionnisme. Et je cite des dizaines d'autres exemples de ce type dans mon livre. En fait, ces traités de libre-échange n'ont aucunement pris conscience de la crise du climat, ou du moins ceux qui les ont rédigés. Et on sait que le commerce a toujours la main sur le climat jusqu'à présent.
And these rules are binding.
Et ces règles de commerce, de libre-échange, sont toujours contraignantes, alors que les traités qu'on essaye de mettre au point sur le climat n'ont jamais force de loi.
Elle parle bien du traité donc de libre-échange transatlantique, celui que veut le gouvernement français donc actuellement, et donc bien sûr aussi la Commission européenne. Et vous dites, toujours au micro de Anne-Cécile Bras, hein, donc de C'est pas du vent, vous dites qu'il faut être fou pour croire aux conférences sur le climat, mais plutôt d'avoir une attente disproportionnée. Et en fait, l'espoir, ça vient des collectivités, ça vient des mouvements citoyens, et vous croyez alors, bien sûr, à l'instauration indispensable d'une vraie taxe carbone et aussi à la convergence des forces.
La conférence de Copenhague, oui, a représenté un tournant. Je parle dans mon livre de la dernière soirée de ce sommet que j'ai passé avec un jeune militant qui pleurait sur mon épaule, en fait. Il était tellement sûr que Obama allait nous sauver, allait finalement sauver cette conférence. Il croyait en cette transition politique de Bush à Obama. Bush, on le savait, niait la réalité du changement climatique. Alors les gens pensaient, les militants notamment, que comme Obama comprend, lui, qu'il y a un changement climatique, il doit agir, il doit faire quelque chose. Et la position de la société civile et des mouvements sociaux à Copenhague, eh bien, était presque, ils imploraient les dirigeants, notamment Obama, de faire quelque chose. Ils attendaient tout de lui. Sommes-nous maintenant? Eh bien, je crois qu'on a fini par comprendre que le leadership doit venir de la base, des citoyens. Bien sûr, les dirigeants politiques sont importants, ils ont leur rôle à jouer, mais on ne peut pas les supplier, les implorer. Il faut exercer des pressions sur eux, et puis il faut formuler la vision de la forme que pourrait prendre ce changement. Et on trouve des exemples positifs qui nous montrent que ça peut marcher. Regardons l'Allemagne. L'Allemagne est en passe de réussir une transition énergétique assez remarquable. Dès aujourd'hui, dès maintenant, 30% de l'énergie allemande vient des énergies renouvelables. Et on n'en parle pas comme une victoire des mouvements sociaux. Pourtant, ça l'est parce que l'Allemagne a un mouvement anti-nucléaire très fort. Et lorsqu'il y a eu la catastrophe de Fukushima, le mouvement s'est emparé de cette crise du nucléaire pour exiger une accélération de la transition énergétique en Allemagne. Il y a donc eu un partenariat entre les mouvements sociaux qui exerçaient une forte pression de la base, y compris en recourant à la désobéissance civile à laquelle ils ont toujours fait appel, et puis d'un autre côté une classe politique, mais qui a répondu, qui a écouté, qui a entendu. Et je crois que c'est ce type de dynamique qu'il nous faut pour faire face à cette crise du climat. Il faut que la crise soit la crise des hommes et des femmes de cette planète et qu'on comprenne l'urgence qu'il y a à agir. Mais il faut aussi peaufiner cette vision de la transition énergétique que nous voulons.
Oui, parce que vous écrivez aussi, après avoir démontré dans votre livre comment fonctionne la machine des climato-sceptiques aux États-Unis, vous dites finalement que d'une certaine manière, nous sommes tous un peu climato-sceptiques. Parce que le climat, ça fait peur, ça génère de l'angoisse. Et face à l'angoisse, en général, on se replie.
It's true, and I start the book.
C'est vrai.
Kind of listing all the ways in
et au début de mon livre, j'ai essayé de dresser la liste de toutes les manières dont on détourne les yeux, en effet, ou dont on fait l'autruche. Parce qu'on peut se dire, oh si, au moins tout le monde savait, avait conscience du problème, on agirait. Mais je crois que malheureusement, c'est plus compliqué que cela. C'est là, dans notre vision périphérique, le changement climatique. Et dès qu'on l'aperçoit, on détourne les yeux, en effet. Alors, bon, je ne vais pas reparler de la fonte des glaces. Je préférerais vous parler de petits chats adorables qui font copain-copain avec des chiens tout aussi adorables.
Because obviously, when there's nothing more terrifying than knowing that your home has become unsafe.
Véritablement, il n'y a rien de plus terrifiant que de savoir que l'endroit où on habite n'est plus sûr pour nous, peut-être dangereux.
I think that's true of our individual homes, but it's also
c'est vrai pour nos maisons, nos foyers individuels, mais aussi pour notre foyer collectif qu'est la Terre. Pourtant, je crois qu'on est capable de faire face les yeux ouverts à la crise, mais seulement si on perçoit qu'on commence à réagir. La combinaison tout à fait terrifiante, c'est d'avoir cette information sur la gravité de la crise du climat, et puis en même temps la conscience du fait qu'on continue de creuser la même route mortifère. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Enfin, ça rend fou. Il y a beaucoup de brutalité dans notre échec à répondre à cette crise collective. Et c'est palpable, on le sent. Ces sommets des Nations Unies deviennent de plus en plus pénibles, douloureux, parce qu'on entend les voix d'États très impactés négativement, des petites îles isolées ou les négociateurs des Philippines qui essayent de plaider leur cause.
A Philippine negotiator
Yep, Sanao,
who was
un négociateur philippin qui se trouvait dans la région qui a été frappée si durement par le typhon Haiyan qui s'est déroulé pendant ce sommet des Nations Unies. Eh bien, ce militant n'a cessé de pleurer pendant toute la réunion. Et pourtant, on n'a pas réussi à mobiliser une solidarité à la hauteur de cette crise. C'est-à-dire que la logique du marché est entrée si profondément dans les mentalités que beaucoup d'entre nous ne croyons même plus qu'on puisse se sauver nous-mêmes. Et on s'interroge même, est-ce que ça vaut la peine qu'on se sauve? Est-ce qu'on le mérite?
What young people are watching when they go to the Cineplex, you know.
Et on regarde les films que vont voir les jeunes au multiplex. C'est des visions apocalyptiques de l'avenir, des choses comme Hunger Games, les jeux de la faim. Il y a les 1% des 1% des nantis qui vivent bien, entourés, enfin, qui baignent dans une mer d'apocalypse. Alors le grand défi, c'est d'arriver à imaginer un avenir différent. Car en fait, on a encore le temps de réagir à cette crise climatique, mais il faut modifier radicalement nos valeurs. Et ironiquement, jusqu'à présent, la manière dont on a essayé de réagir ne fait que renforcer l'idée selon laquelle nous ne sommes que des individus consommateurs, que notre vie se résume à ce qu'on achète. Or, on est bien plus que ce qu'on achète, et on peut agir ensemble. Et on voit naître ce type de mouvement, notamment chez les jeunes. Ça me réjouit, ça fait chaud au cœur de voir la nouvelle génération de militants pour le climat.
C'est vrai, Naomi Klein, on ne pense pas toujours au pouvoir que représente chaque mois notre salaire qui arrive sur un compte en banque, pour ceux qui ont un compte en banque.
Yeah, absolutely, and there's a growing movement.
Tout à fait.
Which is called the fossil fuel
divestment. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement pour le désinvestissement des combustibles fossiles. C'est un mouvement très jeune, mais qui a bien pris sur des centaines de campus universitaires et auprès des municipalités. La ville de Paris, par exemple, s'est prononcée en faveur d'un désinvestissement de son portefeuille d'actions dans les entreprises pétrolières ou gazières. Il y a des étudiants qui demandent à leurs universités de désinvestir de la sorte ou à des banques. Et ce n'est pas, cela ne ressort pas du pouvoir d'un banquier individuel, mais il faut regarder aussi où on investit dans les fonds de pension, etc. Les syndicats peuvent s'emparer de cet espace également pour essayer de l'utiliser comme levier. Il faut voir là où on a le plus de pouvoir. Bien sûr, cela appelle des réponses différentes pour nous tous, pour chacun d'entre nous. On a tous notre petite sphère de pouvoir. Les journalistes ont la leur, mais c'est vrai qu'au niveau des citoyens, on peut faire beaucoup plus que de recycler ou trier, on peut entraîner un changement systémique. Oui. Et ce mouvement qui vise à désinvestir de ces carburants fossiles nous éclaire car il nous montre que les bénéfices des entreprises qui travaillent sur les énergies fossiles ne sont plus légitimes. La recherche nous a éclairé. Le Carbon Tracker Institute, par exemple, et beaucoup d'articles scientifiques, notamment publiés dans la revue Nature, nous montrent qu'il y a 5 fois plus de carbone dans les réserves déjà connues que ce qui peut être compatible avec cette augmentation de 2 degrés de la température de la Terre.
Alors il y a déjà des signes de changement, puisqu'en septembre dernier, vous aviez un groupe de milliardaires et de fondations philanthropiques, dont la fondation des frères Rockefeller, on va le rappeler, hein, ils ont amassé une fortune absolument colossale dans le pétrole, et qui ont annoncé qu'ils réorienteront 50 milliards de placements pétroliers vers les énergies renouvelables. Et donc vous, Naomi Klein, vous êtes à l'origine aussi, donc avec d'autres hein, bien sûr, de ces mouvements de diversification et de désinvestissement.
I think that the main value is not that this is going to bankrupt the fossil fuel companies because you know one foundation.
L'intérêt, bon, c'est pas qu'on arrive à mettre en faillite les grandes entreprises minières, extractives, etc. Mais au moins ça envoie un signal au marché. Les analystes du marché commencent à en parler de plus en plus et pointent cette contradiction terrible entre les objectifs fixés par les gouvernements, par les États dans les sommets des Nations Unies et ce modèle économique qui ne fonctionne plus. Et si on commence à prendre tout cela sérieusement, il y a des trillions de dollars d'investissement qui tout à coup n'ont plus aucune valeur puisqu'ils ne vont pas pouvoir extraire ce carbone sur lequel ils comptent. Donc ça crée un climat d'incertitude et cela est aggravé par effectivement la chute brutale du cours du pétrole qui est passé de $100 le baril à $50 le baril en 6 mois. Bien sûr, ce n'est pas lié à tout ce mouvement de diversification des placements ou de désinvestissement, mais en tout cas, autour de ces actions dans les compagnies pétrolières, ça sent de plus en plus mauvais et ça, c'est positif. On est vraiment à la croisée des chemins. Si on poursuit sur la route qu'on a empruntée, c'est pas juste que le climat va se réchauffer, mais tout va devenir plus violent, plus brutal. Et c'est ce futur qui nous est décrit dans la littérature de type apocalyptique ou les jeux dont on parlait. Mais c'est également un catalyseur et une formidable occasion pour nous de nous emparer du gouvernail de l'histoire et de changer de cap enfin, et tout en essayant de résoudre des problèmes multiples en même temps. C'est vrai, la crise des inégalités, la crise économique, la crise de l'emploi et bien évidemment la crise du climat.
Grand merci à Anne-Cécile Bras avec une traduction d'Ève Dair de l'émission C'est pas du vent sur RFI. Et puis Tout peut changer, capitalisme et changement climatique aux éditions Actes Sud. Naomi Klein.
Fidélité, on a l'impression d'exister.
Diterzy de son nom, Claire de son prénom, c'était infiniment petit. Ah bah je vous l'avais promis, deuxième partie, bah oui, tiens, tenez, il y a des loups. Alors là, on regarde le ciel, Jean-Michel Bertrand, et c'est bien parce que la lune, qui est presque pleine, ne s'est pas encore levée totalement. Mais alors, c'est parfait parce que c'est l'heure de ce qu'on appelle entre chien et loup. Et on est avec vous. À quel endroit sommes-nous, on va dire, Jean-Michel Bertrand ?
Alors là, on est au bivouac. Alors le bivouac, c'est l'endroit dans lequel je passe le plus de temps depuis quelques années.
Eh oui. L'endroit secret, faut
l'endroit,
le dire.
L'endroit secret, ouais. Mais c'est aussi l'endroit de tous les possibles.
Et alors, on est quand même dans ce massif, on a le Dévoluy et...
Et le Champsaur.
Et le Champsaur.
Ouais.
Et alors, le tous les possibles, ça veut dire regarder. Regarder les loups arriver vers soi et essayer non pas de les apprivoiser, on ne va pas l'apprivoiser ce loup, mais vous avez envie de le filmer. Et c'est pour ça que... Alors, là, je vois quoi ? Je vois votre sac de couchage, je vois... Alors, on a un petit bosquet d'arbres, c'est ça, quoi.
Voilà, on a un petit pin là qui nous protège. Ouais. Alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est que il a fallu, comme vous le voyez, couper quelques branches.
Ah, oui.
Parce que là, même à quatre pattes, on tient limite, limite. Et quand on coupe les branches, la résine coule. Et en plus, il y a des milliers de fourmis. Des fourmis rouges très mignonnes, mais qui tombent régulièrement. Regardez, voilà. Alors là, la lune se lève. Et normalement, les fourmis vont commencer à se calmer. Ça, c'est déjà pas mal, jusqu'à demain matin.
Le lieu, c'est le département des Hautes-Alpes. Jean-Michel Bertrand est cinéaste. Il nous avait régalé avec Vertige, une rencontre qui est toujours disponible en 2010 avec Les Aigles, avec l'ami Christian Couloumi. Et là, nous sommes entre donc le Champsaur, le Dévoluy, c'est le soir. Vous avez une lune argentée qui joue avec la neige, un torrent qui s'ébroue, 1700 mètres d'altitude. On est à la lisière entre forêt et le monde minéral. Et nous sommes là donc où ce réalisateur a quand même bivouaqué pendant 2 ans pour filmer de vrais loups sauvages, hein, pas des loups imprégnés et apprivoisés par l'homme. Donc nous allons le suivre dans cette quête sauvage, cette quête personnelle, ce joli travail de patience, de sensibilité qui est réalisé par Pierre Jabot.
J'ai 2-3 endroits comme ça stratégiques sur le territoire des loups. Et le but, et du coup, je pense que le seul moyen d'arriver à les comprendre, c'est déjà de se déplacer aux heures où eux ne se déplacent pas, se déplacer au cœur de la journée, et puis toujours passer par les mêmes chemins ou les mêmes passages, on peut dire, parce qu'il n'y a pas des chemins partout, évidemment, aux mêmes horaires, et rester sur place le soir, la nuit, le matin, bivouaquer, pour ne pas les surprendre, pour ne pas les croiser au moment où ils sont actifs, en fait. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis maintenant 1 an et demi, ben, je passe mon temps sur ces fameux endroits stratégiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai eu le coup de bol monstre de croiser un loup. Et ça a été, alors, comme dans les films, quoi. Le truc à 10 mètres, alors que j'étais en train de pisser près de mon bivouac après l'orage, je me retourne, le loup qui était là, qui me regardait, puis qui est parti comme un chat tranquille.
Ouais.
Et je me suis dit, ça c'est le signe. Après, j'ai passé 1 an sans voir un seul loup, que des traces, des indices. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir le secteur de la tanière, le secteur où tout se passe. Et là, je me suis rendu compte que les loups m'avaient complètement capté. C'est-à-dire que quand j'ai vu les premiers loups qui étaient la louve dominante...
Ils avaient intégré votre odeur déjà.
Elle m'a regardé. Elle est passée là où j'étais passé.
Ouais.
Elle a levé la patte en s'accroupissant, comme une femelle dominante qu'elle est. Elle a pissé en disant « Mon gars, je t'ai vu, tu es chez moi. » Et ça m'a complètement sidéré. Et depuis maintenant... des semaines et des semaines, les loups passent, vaquent à leurs occupations, ils arrivent vers la tanière avec le ventre plein de nourriture pour régurgiter aux petits, ils repartent avec le ventre vide, soit seuls, soit en meute, et ils me regardent toujours, parfois un petit pipi. Moi, je reste là 5 jours, une semaine, sans bouger. Et puis quand j'ai plus rien à bouffer, plus rien à boire,
et tout, redescendre dans la vallée quand
je repars dans la vallée, je reprends toujours mon petit passage, je fais pipi, moi aussi, là où ils ont fait pipi. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Un truc de fou auquel, moi au départ, quand je me suis lancé dans cette quête, en fait, dans cette aventure, Le but, c'était d'arriver au bout de 3 ans à filmer la queue d'un loup à 300 mètres. Quoi. Je me suis dit, si t'as ça, t'as gagné. T'as vu le loup sauvage, le vrai. Alors c'est vrai que quête, c'est peut-être un mot un petit peu grandiloquent ou à la mode, ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est un peu une quête. Alors, c'est aussi comme un enfant qui se donne un défi. On est à la limite dans un jeu vidéo grandeur nature où je me donne un défi un peu incroyable.
Ouais.
Et puis, je me lance là-dedans corps et âme, sauf que le décor est réel, sauf qu'on est dans la nature, sauf que les codes et les langages de la nature sont à respecter et à comprendre. Et en fait, ben, je grandis au fur et à mesure que j'avance dans cette quête, dans cette aventure.
Alors, dans cette meute, il y a combien de loups là ?
La meute comporte à peu près 8 loups.
Ouais.
Et en fait, la meute, c'est vraiment la famille, quoi. Il y a le mâle et la femelle dominants, il y a les enfants de l'année dernière, etc. Et donc, chaque année, quand les loups se reproduisent, il y a de nouveaux membres dans la meute.
Ouais.
Et du coup,
il va falloir qu'ils passent quand même.
Il y a ce qu'on appelle de la dispersion, ouais. C'est-à-dire que les jeunes s'en vont et il y a un renouvellement permanent. Et le but de la meute, c'est d'élever dans les meilleures conditions possibles et d'avoir le plus de chances possibles de survie pour les jeunes.
Ouais,
tout est fait pour élever les jeunes. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle souvent du loup sanguinaire. Enfin bon, on connaît toutes les histoires de loups. Et en fait, moi, en observant les loups là sur cette tanière, sur ce secteur, je me rends compte que ce sont des besogneux. Ils sont besogneux, ils sont réguliers, ils sont attentifs. Donc il y a un côté comme ça très proche de l'humain, quelque part, quoi. Sauf que lui, le loup, il est resté dans la nature et qu'il est la passerelle entre le monde magique, comme je l'appelle, moi, le monde de la nature, avec cet autre langage. Et c'est pour moi une vraie passerelle, quoi. Donc rencontrer le loup, c'est rencontrer un truc colossal.
Alors, c'est extraordinaire parce que, bon, je ne les verrai pas, vos loups, enfin, sauf évidemment en image, mais là, je sais que je suis sur le territoire du... Donc, je suis sur le territoire du loup, là, ici. C'est-à-dire, bon, ils nous ont peut-être déjà reniflés, enfin, sûrement. On va redescendre, je vais vous laisser, repasser donc encore une nuit dans votre affût. Mais c'est toujours ce côté-là, c'est-à-dire que c'est le chemin qui est peut-être aussi important, on va dire, que le but, quoi. C'est comme pour le bonheur.
Mais évidemment, c'est vraiment le chemin, parce que justement, quand je suis dans la forêt, que j'y passe l'hiver à chercher des traces, on est carrément dans un polar avec des questionnements, avec des bribes de réponses, avec la recherche d'une forme de compréhension, mais tout ça dans un grand univers qui nous dépasse et dont nous sommes originaires.
Ouais.
Donc un truc hyper profond, quelque part ça peut même être philosophique, parce qu'il y a le temps qu'on passe, tout seul, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là. Donc ça va hyper loin, et tout ça, donc, ça rend petit, mais ça grandit par ailleurs.
Ce soir, on a cette pleine lune, et vous m'avez dit, viens plutôt à la pleine lune si jamais c'est possible, parce que ça rajoute de la magie. Et puis eux, ils aiment la pleine lune.
Oui, eux, ils aiment la pleine lune parce qu'ils se déplacent vachement de nuit, évidemment.
Ils peuvent faire 50 km d'ailleurs.
Ils arrivent à faire 50 km dans la nuit, et la pleine lune leur facilite évidemment la tâche. Et moi, j'ai pu entendre hurler la meute à la pleine lune, enfin à la lune quasiment pleine. Et ça a été des moments incroyables, parce que là aussi, les loups n'hurlent pas pour rien. Les loups, tout est codé, les loups discutent, il y a un langage. Et même dans l'élevage des jeunes, on se rend compte que tout est codé, qu'il n'y a pas de violence, que tout est mimé, l'agressivité, la soumission, etc. En fait, c'est des animaux qui nous apportent énormément. Et quand on est là, comme vous disiez tout à l'heure, sur leur territoire, avec cette lune... Ben, on se dit que ça suffit, quoi. À la limite, on sait qu'ils peuvent être là, on sait qu'ils savent qu'on est là. Ça, j'adore aussi.
Ouais.
Parce que c'est eux qui mènent la barque. C'est eux qui savent.
Bien sûr.
Donc, eux savent que je suis venu avec Denis Chessault aujourd'hui là. Enfin, avec quelqu'un.
Ouais.
Je dis, mais c'est, voilà.
Je crois plutôt avec quelqu'un. Parce que c'est...
Voilà, il y a un intrus, d'ailleurs.
C'est ça.
Voilà. Et donc, le fait de savoir qu'on est sur ce territoire, que cette crête est devenue la crête parce qu'ils y passent régulièrement et qu'on a cette atmosphère.
C'est
de pleine lune,
ouais.
Ben, je crois que ça suffit à se sentir vivant complètement. Quoi.
Alors Jean-Michel Bertrand, moi je n'ai pas forcément les entendus hurler comme on dit, mais ils parlent de vallée en vallée, c'est-à-dire qu'ils s'appellent aussi entre eux.
Alors en fait on ne sait pas exactement toute la signification des hurlements, c'est très complexe et les scientifiques s'y cassent la tête et apprennent des choses depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Mais effectivement, le hurlement est vraiment une façon pour eux de communiquer, oui, évidemment, d'apporter aussi au moment de la période du rut, au mois de février, de délimiter les territoires. C'est-à-dire que la façon de délimiter le territoire, c'est pipi, caca, hurlement. Mm-hmm. En gros, c'est ça. Et donc, le hurlement permet aussi à des individus isolés de savoir s'ils sont seuls ou s'il y a d'autres loups sur le territoire, etc. Donc c'est un véritable langage hyper sophistiqué. Et les jeunes, d'ailleurs, et moi c'est ce que j'ai pu entendre, et j'ai eu le privilège d'entendre ça, en fait les jeunes au début ne savent pas hurler. Ils jappent comme des chiens. Et en fait, c'est un apprentissage aussi de hurlement. Et ça permet, et ça a évidemment une raison sociale hyper importante.
Que pourriez-vous dire, Jean-Michel, pour tenter de pacifier un peu les choses entre éleveurs et le loup aujourd'hui ?
Bon, j'ai la chance d'être ici en compagnie de cette meute qui est dans une vallée complètement sauvage et sur laquelle il n'y a pas de bétail, il n'y a pas de brebis. Donc ouais, en fait, bon, ils font certainement des incursions de temps en temps. Ils vont.
Non, mais ils mangent pas des brebis, hein, et autre chose. Voilà.
Là, sur les images que vous avez vu, bah oui, il y en a un qui passe avec une patte de cerf dans, ouais, la gueule, etc. Bref, là, il y a du gibier, il y a ce qu'il faut, l'équilibre est sauf. Et après, il faudrait parler des heures, justement, pour expliquer, justement, le fameux équilibre, mmh, biologique entre les proies et les prédateurs, qui fonctionne plutôt pas mal ici. Bon, après, le problème de l'élevage, évidemment, est un vrai problème, et la détresse des bergers est une vraie détresse. Et je crois que ce qu'il faut surtout faire, c'est avoir du bon sens, c'est ne pas parler à la place des autres. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, comme me dit un ami, il me dit toujours, toi, c'est quand même incroyable, tu fais un film sur les loups et tu vas boire ton café au bistrot sans problème, personne ne te dit rien. Ben non, personne ne me dit rien. Et des tas d'éleveurs et de paysans que je connais bien, avec qui je bois un coup et qui me demandent où j'en suis, tout simplement parce que je me donne la peine d'aller au bout du bout, c'est-à-dire pour rencontrer les loups, et voilà. Et en plus, j'ai une idée relativement simple par rapport à ces problèmes d'attaque et de défense, c'est qu'au lieu de passer par une multitude de directives, de codes, je tire en l'air, je fais pipi par terre, je me roule dedans trois fois, j'attends, je tire un peu plus bas. En fait, je crois que dans un monde idéal, on va dire, où les gens ne seraient pas là pour détruire les loups, mais pour réellement défendre leurs troupeaux, et où on respecterait l'animal tout en voulant préserver son gagne-pain, il faudrait que les bergers puissent avoir une arme, évidemment, et se défendre directement en cas d'attaque. Oui. C'est-à-dire que le loup...
Qu'il ne l'attaque pas, mais qu'il se défende en cas d'attaque.
Voilà. Et ce qui est très différent, parce que le loup, il est hyper intelligent.
C'est ce que certains font, d'ailleurs.
Oui, oui. Bah, oui. Mais le loup, il est vachement intelligent, évidemment. Le loup, c'est un grand prédateur. Et son but, évidemment, c'est de se protéger. Et c'est de survivre. Et c'est pour ça que tous les grands prédateurs, on peut le constater aussi avec les aigles, mmh, ils vont pas attaquer n'importe quel animal, justement, quand c'est risqué. L'aigle peut tuer un renard, éventuellement. Il peut tuer un chevreuil. Les aigliers font attaquer les chevreuils aux aigles. Mais dans la nature, l'aigle n'attaque jamais le, mmh, chevreuil parce qu'il y a un risque. Et en fait, le loup, s'il sait qu'il se fait tirer dessus quand il va aux brebis, il va y réfléchir à deux fois. Ouais. Sauf que si on réfléchit trop, nous, avant, qu'on le laisse attaquer, et qu'après, on va dire, on va tuer 4 loups, 8 loups, 15 oui, loups,
ça marche pas,
qui n'ont jamais vu de brebis.
Mmh, c'est ça.
Je trouve que c'est de la démagogie et c'est même un manque de respect pour eux et c'est totalement inefficace.
Jean-Michel, qu'est-ce qu'ils vous ont profondément appris, ces loups ? Qu'est-ce qu'ils continuent à vous apprendre ?
Ben, ils m'apprennent énormément de choses, parce que comme on dit, ce genre de démarche et de quête est un sport complet. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sport physique, c'est un sport mental. Et ce qu'ils m'ont apporté, c'est qu'ils m'ont d'une part permis de me dépasser complètement. C'est-à-dire que j'aurais jamais cru pouvoir bivouaquer dans les conditions dans lesquelles j'ai bivouaqué pendant aussi longtemps. Ouais. parcourir ces kilomètres dans la nature, etc. Donc déjà, ils m'ont emmené sur des chemins incroyables. Et puis ensuite, ils m'ont appris à les aimer et à les respecter en voyant que quand on voit des louveteaux jouer comme des chiots, quand on voit la jeune louve qui vient les éduquer, qui vient leur apprendre à ritualiser, à ne pas se mordre trop fort pour pas se faire mal, mais simplement à se menacer, etc. Bref, quand on voit cette société évoluer sous nos yeux, on en ressort transformé, quoi. C'est un truc colossal. Et en plus, moi, ce qui m'intéressait, je le dis et je le redis toujours, c'est qu'on parle toujours du loup. Tout le monde l'a vu. On va le voir, c'est mon cousin qui l'a vu, mon beau-frère, toi tu l'as vu. Non, mais moi, lui, je connais quelqu'un qui l'a vu. Bref, tout le monde l'a vu, personne ne le voit. Les gens ne sont même pas menteurs. Ça les dépasse parce que c'est un mythe. On parle d'un mythe, donc voilà. Mais
c'est soit un mythe ou soit un bouc émissaire.
Voilà, voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, moi, ce qui m'a obsédé, c'est évidemment qu'on parle toujours du loup, qu'on voit toujours des photos de loups qui sont malheureusement des loups qui sont pris dans des parcs, qui ne sont pas libres, qui sont apprivoisés, qui sont sous le joug humain. Et moi, mon rêve, c'était de montrer et de rencontrer le loup sauvage. Et je dois vous dire que quand j'ai ces louveteaux là qui jouent ensemble, qui sont sauvages, qui savent pas tout ce qu'on dit d'eux et qui s'en fichent complètement parce que s'ils savaient, eux, leur préoccupation, c'est de vivre et de survivre au sein de leur meute et de la nature. Et quand on peut témoigner de ça et de montrer au public et aux gens le loup sauvage, comme on dit, le vrai, entre guillemets, c'était ça ma démarche. C'est pas de faire un reportage ou un documentaire sur le loup. Non. Pas du tout, du tout. Parce que ça, il y en a plein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois quarts des loups qu'on voit, c'est des loups qui sont malheureusement en captivité ou en semi-captivité. Et moi, le rapport au sauvage et au loup sauvage, ça a une symbolique colossale, quoi. Pour moi, c'est très, très fort. Donc, voilà, ça valait tous ces efforts qui, en fait, n'en étaient pas vraiment. Parce que ça a été une expérience de folie, quoi.
L'homme qui murmurait à l'oreille des loups, Jean-Michel Bertrand, reportage donc réalisé et colorié par Pierre Jabot, donc dans ce très beau département des Hautes-Alpes. Un homme qui n'ignore pas, hein, loin de là, c'est un homme vraiment qui est du cru de Saint-Baudet-en-Champsaur, donc il connaît bien. Il connaît bien aussi les éleveurs, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à se respecter donc les uns et les autres. Il a vu naître si petit, alors le film, ça peut vous intéresser quand même, il va pas sortir avant 2016, mais ça va être une sortie extrêmement importante. Mais avant, sur le site de CO2 Mon Amour, n'hésitez pas, parce que sur le site vous avez ce qu'on appelle en français donc le teasing. Donc vous avez 3-4 minutes, c'est absolument superbe. Sur le site de CO2, donc franceinter.fr, vous en avez d'habitude. Merci à Jean-Philippe Jeanne, à Hélène Langlois, à Sophie Salio-Marie, à Caroline Debray, notre assistante, Hélène Biziot qui a réalisé l'émission. Denis Chessou, je vous retrouve avec plaisir pour l'actu du bon petit loup demain, 19h54. Thierry Dupin a choisi les disques. Anne Gouzon a nourri les sites. J'ai presque tout dit. Oui, allez, hop.